Le livre de Daniel, numéro 177.
Le scellement des 244 milliards. Éclairage issu de la vision de Daniel et du symbolisme prophétique.
Daniel a été touché trois fois au chapitre 10. La première et la dernière fois par Gabriel, et au milieu, par le Christ. C'est lors de ce contact intermédiaire que Daniel a le plus vivement ressenti sa corruption, car le jalon central de la vérité représente la rébellion. C'est Michel qui a touché Daniel la deuxième fois, car il était descendu au bout de 21 jours.
À la fin de 3 jours et demi symboliques, durant lesquels les deux témoins d'Apocalypse, chapitre 11, gisent morts dans la rue, une voix ressuscite les deux témoins. C'est la voix de l'archange qui ressuscite. La descente de Michel dans Daniel chapitre 10, au 22e jour, correspond à la résurrection des deux témoins en 2023. Tandis que les deux témoins étaient morts dans la rue, il fut montré à Ézéchiel leurs ossements dispersés, et il lui fut demandé s'il pensait que ces ossements desséchés, dans la vallée, pouvaient être ressuscités. Et tout ce qu'Ézéchiel répondit fut « Seigneur, tu le sais ».
Il fut alors dit à Ézéchiel de prophétiser aux ossements, ce qu'il fit. Et lorsqu'il le fit, ils s'assemblèrent, mais n'étaient toujours pas vivants.
La première prophétie d'Ézéchiel consistait à rassembler les ossements, mais il faudrait une seconde prophétie pour ressusciter les ossements en une armée. La seconde prophétie d'Ézéchiel était la prophétie du troisième malheur, tel qu'il est représenté par les quatre vents qui rendirent la vie aux ossements. Le premier Adam fut créé parfait, mais par la suite il pécha et transmit la mort à toute sa postérité. La résurrection des ossements morts d'Ézéchiel est parallèle à la création d'Adam dans sa perfection, car Adam fut d'abord formé, puis le Seigneur souffla en lui un souffle de vie.
Ce n'est pas pour autant que les deux témoins reçoivent des corps glorifiés lorsqu'ils sont ramenés à la vie, car cela ne se produit qu'à la seconde venue. Mais leur résurrection fait écho à la vision de Daniel, la vision Mara, causative, lorsqu'ils sont transformés à l'image qu'ils contemplent alors. Ligne sur ligne, le processus du scellement est exposé avec grand soin par le témoignage prophétique.
Dans l'Apocalypse, chapitre 11, après 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra dans les deux témoins, et ils, alors, se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les virent, et il y eut alors une grande voix venant du ciel leur disant « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent.
D'abord, l'Esprit entra en eux. Puis ils se tinrent debout, et quand ils se tinrent debout, la crainte tomba sur leurs ennemis qui s'étaient auparavant réjouis de leur mort. Ensuite, une voix les appelle à monter, et leurs ennemis sont témoins de l'événement. Avec Ézéchiel, ils sont d'abord identifiés comme dispersés et morts dans la vallée, puis une prophétie est proclamée qui les rassemble, puis la seconde prophétie les fait se lever comme une armée puissante. Avec Daniel, ils voient d'abord la grande vision qui produit une séparation de deux classes. Puis il est touché trois fois.
La première fois qu'il fut touché, il n'avait plus de force. Il était plongé dans un profond sommeil et son visage était tourné vers le sol. Le sommeil représente la mort. Pourtant, il entendit les paroles prononcées.
Ne vous étonnez pas de cela. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Jean 5, 28.
Gabriel amena. Alors Daniel alla se mettre sur ses mains et ses genoux, puis lui ordonna de se tenir debout, ce qu'il fit tout en tremblant. Il entendit alors les paroles de Gabriel, mais resta muet. Ézéchiel avait également eu la vision du Christ, et cela entraîna une suite d'événements similaires.
Et au-dessus du firmament, qui était au-dessus de leur tête, il y avait comme la ressemblance d'un trône à l'aspect d'une pierre de saphir. Et, sur la ressemblance de ce trône, se trouvait comme la ressemblance d'un homme, au-dessus, sur lui. Et je vis comme la couleur de l'ambre, comme l'apparence du feu tout autour, au-dedans, depuis l'apparence de ses reins vers le haut et depuis l'apparence de ses reins vers le bas, je vis comme l'apparence du feu, et il y avait un éclat tout autour. Comme l'apparence de l'arc qui est dans la nuée au jour de la pluie, telle était l'apparence de l'éclat tout autour. C'était l'apparence de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Et quand je le vis, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout, et je te parlerai. » Et l'Esprit entra en moi lorsqu'il me parlait, et me fit tenir debout, et j'entendis celui qui me parlait. Ézéchiel 1, 26, 2, 1.
La vision amena Ézéchiel et Daniel à s'humilier dans la poussière, où ils furent prosternés à terre. Dans cet état, ils entendirent néanmoins la parole du Seigneur. Puis tous deux furent mis debout pour entendre les paroles qui leur étaient adressées, et lorsqu'ils les entendirent, l'Esprit entra en eux. L'union avec la divinité s'accomplit par la réception de la parole de Dieu transmise par le Saint-Esprit. La parole est ce qui transmet la divinité à l'humanité. Cette vérité doit être reconnue afin de comprendre le sérieux et la portée de l'histoire prophétique que Gabriel communique à Daniel au chapitre 11. L'histoire prophétique présentée au chapitre 11 est le conduit par lequel l'huile sainte est transmise aux vierges sages. Quant à Ézéchiel, il reçoit aussitôt l'ordre d'adresser un message à l'adventisme laodicéen, bien qu'il soit informé d'emblée que l'adventisme laodicéen n'écoutera pas ses paroles, car c'est une maison rebelle. L'expérience d'Ézéchiel est celle d'Ésaïe au chapitre 6, et par conséquent, sur le témoignage de deux témoins, lorsque Dieu réveille Daniel de son sommeil, symbole de la mort, Daniel reçoit un message pour la maison rebelle de l'adventisme laodicéen. Mais ils n'écouteront pas. Daniel est alors touché une seconde fois par le Christ lui-même, qui touche les lèvres de Daniel, tout comme il avait touché les lèvres d'Isaïe avec une braise provenant de l'autel. Alors Daniel put parler, mais il était encore sans force et n'avait toujours pas de souffle. Selon Ézéchiel, le souffle vient avec le message des quatre vents, qui était la seconde prophétie d'Ézéchiel. La prophétie des quatre vents d'Ézéchiel correspond à la troisième fois où Daniel est touché, car c'est alors que le souffle pénètre dans les eaux et qu'il se dresse comme une armée puissante. C'est lors de cette troisième fois où Daniel est touché qu'il est fortifié.
Le 18 juillet 2020, le peuple de Dieu de la fin des temps a été dispersé et est entré dans le temps d'attente de la parabole. L'histoire du scellement a été illustrée par l'histoire allant du 22 octobre 1844 jusqu'à la rébellion de 1863. La ligne historique qui y est représentée se superpose à celle allant du 11 septembre 2001 jusqu'à la loi du dimanche. Mais elle se superpose aussi à l'histoire allant du 18 juillet 2020 jusqu'à la loi du dimanche. Ce phénomène prophétique repose sur le fait que les symboles ont plus d'une signification et que leur signification doit être déterminée par le contexte dans lequel ils sont appelés. Lorsque nous considérons l'arrivée et l'œuvre de l'un des trois anges, nous constatons qu'elles sont régies par la même séquence d'événements. Il arrive au moment où la prédiction qui lui est associée est dévoilée. Cette prédiction est structurée en trois étapes : son arrivée, sa montée en puissance et la porte close à son terme. Il existe d'autres jalons dans l'histoire, mais parmi les trois jalons d'épreuve, l'arrivée de n'importe lequel des trois anges constitue le premier jalon où une prophétie est dévoilée. Le message qui est dévoilé reçoit sa puissance par une confirmation, et cette confirmation et cette montée en puissance mettent alors à l'épreuve les hommes et les femmes de cette histoire. La conclusion de l'histoire produit une épreuve de vérité qui montre si ceux qui se tiennent à la troisième épreuve sont sages ou insensés. Dans l'histoire allant du 11 septembre 1 2001 jusqu'à la loi du dimanche, on peut identifier trois anges. Le premier est arrivé le 11 septembre 2001, le deuxième est arrivé le 18 juillet 2020, et le troisième arrive au moment de la loi du dimanche imminente, le test décisif. Le 22 octobre 1844 correspond au 11 septembre 2001. 1856 correspond au 18 juillet 2020 et 1863 correspond à la loi du dimanche. Cela dit, la période du 22 octobre 1844 à 1863 correspond également à celle allant du 18 juillet 2020 jusqu'à la loi du dimanche, car le 18 juillet a été l'arrivée du deuxième ange de l'histoire du scellement. L'histoire qui suit est toujours correctement identifiée comme étant simplement les jalons de tout ange. Le 18 juillet 2020, une vérité fut décelée, destinée à éprouver cette génération. La seconde étape de cette histoire est celle où les deux témoins sont ressuscités. Ils sont alors mis à l'épreuve quant à savoir s'ils accepteront la lumière alors révélée, ce qui est en cours maintenant. Puis, à la loi du dimanche, le test décisif, il sera révélé qui est et qui n'est pas une vierge sage. Lorsque nous considérons l'histoire simplement comme la structure d'un ange singulier, puis que nous superposons l'histoire allant du 22 octobre 1844 jusqu'à la rébellion de 1863 sur celle qui va du 18 juillet 2020 jusqu'à la loi du dimanche, nous constatons qu'en 1849, Sir White identifia que le Seigneur avait étendu de nouveau sa main pour rassembler le reste de son peuple. Du Schottenabdog de 1744 jusqu'en 1799, le peuple de Dieu avait été dispersé. En 1750, ils ont produit la seconde des deux tables d'Habacuc. En janvier 1741, ils annonçaient le nouveau tableau dans la Review. Le peuple de Dieu était dispersé, et le troisième ange est arrivé avec de la lumière. Alors Dieu a commencé à les rassembler de nouveau, et il a ensuite fourni une représentation visuelle du message qu'il devait proclamer, comme il l'avait fait en 1742. La lumière qui est arrivée le 22 octobre 1744 était un accroissement de la connaissance, et elle a continué, sous sa direction, à se développer, et en 1756, la clé de voûte de cette lumière a été introduite. Cette lumière portait sur les sept temps. C'était la première lumière reconnue par William Miller, et elle était représentée comme l'une des prophéties accomplies le 22 octobre 1744. La lumière des sept temps, en 1856, était à la fois la fin de l'accroissement de la connaissance donnée à Miller, le messager du premier ange, mais c'était aussi la lumière finale du troisième ange, donnée le 22 octobre 1844. Le rejet de cette lumière en 1856 fut à la fois un rejet de l'accroissement de la connaissance dévoilée en 1752, mais aussi de l'accroissement de la connaissance dévoilée le 22 octobre 1844, et il fut le fait de ceux qui passèrent alors de l'expérience de Philadelphie à celle de Laodicée. La rébellion de 1863 fut la troisième et l'épreuve décisive qui se manifesta par un tableau contrefait, supprimant la lumière des sept temps. La première déception du 19 avril 1844 fut infligée au mouvement philadelphien, du premier ange, par Dieu, qui avait mis sa main sur une erreur dans certains chiffres du tableau pionnier de 1843. La première déception du 18 juillet 2020 fut infligée au mouvement Laodicée de Fionnu, du troisième ange, par des hommes qui négligeaient le fait que le 22 octobre 1844, le Christ avait levé la main vers le ciel et juré que le temps ne serait plus. Le 18 juillet 2020, un message a été décelé pour éprouver cette génération de vierges. Comme en 1850, le Seigneur, en 2023, a étendu sa main une seconde fois pour rassembler les ossements morts d'Ézéchiel, qui gisaient dans la rue depuis le 18 juillet 2020. Dès 1851, il y eut une nouvelle représentation visuelle du message qui accomplissait la prophétie du chapitre 2 d'Habacuc, montrant ainsi qu'après 2023, le Seigneur aura un nouvel étendard vivant à élever, typifié par les deux tables d'Habacuc. Les deux tables d'Habacuc étaient préfigurées par les deux tables des 10 commandements, et aussi par les deux pains de l'offrande de balancement lors de la fête de la Pentecôte. Les 144 000 sont identifiés comme une offrande des prémices, et ce sont ceux qui, dans Malachie, représentent l'offrande comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Ils sont élevés comme une offrande de balancement que le monde entier verra. L'éveil des 144 000 commence par le rassemblement, et ce rassemblement s'accomplit par la parole de Dieu, car les ossements morts dont parle Ézéchiel sont rassemblés par l'écoute de la parole de Dieu, alors qu'ils sont encore morts. Ézéchiel représente l'instrument humain qui proclame le message qui rassemble les ossements lorsque le Seigneur étend sa main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jean et Ézéchiel identifient tous l'élément humain qui transmet le message divin aux ossements morts et desséchés. Une fois les os rassemblés, le Seigneur révèle l'accroissement de connaissance qui est décelé juste avant la clôture du temps de grâce. Et cette connaissance est représentée par cette partie de la prophétie de Daniel relative aux derniers jours. Dans la seconde prophétie d'Ézéchiel, la lumière qui est décelée est le troisième malheur, lequel est le message du vent d'Est qui insuffle la vie aux eaux et les fait causalement se tenir debout comme une puissante armée. La lumière qui est révélée à Daniel est la lumière représentée par le roi du Nord au chapitre 11. Ensemble, Ézéchiel et Daniel représentent cette partie de la prophétie de Daniel relative aux derniers jours, laquelle constitue les nouvelles du vent d'Est et du roi du Nord.
Mais des nouvelles venant de l'Orient et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer un grand nombre. Daniel 11, 44.
Et not in turn of excess, le Seigneur se proposait d'achever son œuvre de scellement de son peuple, mais ils se rebellèrent. Le message qu'il entendait employer pour les faire sortir de leur condition laodicéenne était celui des sept temps de Lévitique 26. Lorsque le Seigneur commença à rassembler son peuple, en juillet 2023, il leur présenta de nouveau le message des sept temps et, entre autres choses, révéla qu'au jour antitypique des expiations, la trompette du jubilé devait retentir, moment auquel devait également retentir la septième trompette. La trompette du jubilé est un symbole des sept temps, et la septième trompette est le troisième malheur. Lorsque Michel descendit dans le chapitre 10 de Daniel, Daniel représentait ceux qui obtiennent l'expérience de ceux qui adressent la prière de Lévitique 26, et ceux qui cherchent à comprendre le secret prophétique du chapitre 2 de Daniel. Daniel représente ceux qui ont été rassemblés par la voix de Dieu, puis se tiennent debout, fortifiés pour proclamer le message de l'Orient et du Septentrion. Ils proclament ce message jusqu'à l'imminente loi du dimanche. Le processus de relèvement de cette armée constitue un sujet prophétique très détaillé, est le moment où la divinité commence à être unie à l'humanité en accomplissement du scellement des 144 000 à commencer dans l'histoire représentée au verset 11 de Daniel 11. L'histoire représentée depuis le verset 1 de Daniel 11 jusqu'au verset 16 remplit l'histoire cachée du verset 40, c'est-à-dire cette portion de la prophétie de Daniel relative au dernier jour. Lorsque nous commençons à examiner les versets 13 à 15 de Daniel 11, dont le premier accomplissement eut lieu lors de la bataille de Panium en 200 avant Jésus-Christ, il est essentiel de comprendre l'importance de ces versets. Panium est la troisième de trois guerres par procuration. La première bataille s'est conclue par la victoire de la papauté et de son armée par procuration, les États-Unis, en 1989. La bataille suivante, représentée par les versets 11 et 12, qui s'est accomplie par la bataille de Raphia, verra le roi du Sud, la Russie, vaincre le roi du Nord et son armée par procuration en Ukraine. La troisième bataille sera comme la première, la papauté, le roi du Nord, l'emportant sur le communisme, les Nations Unies, avec son armée par procuration, les États-Unis. Mais la troisième guerre par procuration, qui est la bataille de Panium, marquera aussi le commencement de la troisième guerre mondiale. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
De même que les rouages complexes étaient sous la conduite de la main, sous les ailes des chérubins, ainsi le jeu complexe des événements humains est sous le contrôle divin. Au milieu des luttes et du tumulte des nations, celui qui siège au-dessus des chérubins continue de diriger les affaires de la terre. L'histoire des nations qui, l'une après l'autre, ont occupé le temps et la place qui leur étaient assignées, rendant inconsciemment témoignage à la vérité dont elles-mêmes ne connaissaient pas le sens, nous parle. À chaque nation et à chaque individu d'aujourd'hui, Dieu a assigné une place dans son grand dessein. Aujourd'hui, les hommes et les nations sont mesurés au fil à plomb dans la main de celui qui ne se trompe jamais. Tous décident, par leur propre choix, de leur destinée, et Dieu dirige souverainement toutes choses pour l'accomplissement de ses desseins. L'histoire que le grand Je suis a tracée dans sa parole, reliant maillon après maillon dans la chaîne prophétique, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, nous indique où nous en sommes aujourd'hui dans le déroulement des siècles, et ce à quoi l'on peut s'attendre pour le temps à venir. Tout ce que la prophétie a annoncé comme devant s'accomplir jusqu'au temps présent s'est inscrit sur les pages de l'histoire, et nous pouvons avoir l'assurance que tout ce qui doit encore venir s'accomplira en son ordre. Le renversement final de toutes les puissances terrestres est clairement annoncé dans la parole de vérité. Dans la prophétie formulée lorsque Dieu prononça la sentence contre le dernier roi d'Israël, on trouve ce message. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ôtez le diadème et enlevez la couronne. Élevez celui qui est humble et abaissez celui qui est élevé. Je renverserai, renverserai, renverserai cela, et cela ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le droit, et je le lui donnerai. » Ézéchiel 21-26-27. La couronne ôtée à Israël passa successivement aux royaumes de Babylone, de la Médo-Perse, de la Grèce et de Rome. Dieu dit, « Elle ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à qui elle appartient de droit, et je la lui donnerai. » Ce temps est proche. Aujourd'hui, les signes des temps déclarent que nous nous tenons sur le seuil d'événements grands et solennels. Tout, dans notre monde, est en agitation. Sous nos yeux s'accomplit la prophétie du Sauveur concernant les événements qui doivent précéder sa venue. Vous entendrez parler de guerre et de guerre, bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6, 7. Le temps présent est d'un intérêt saisissant pour tous les vivants. Les gouvernants et les hommes d'État, les hommes investis de charges de confiance et d'autorité, les hommes et les femmes de pensée de toutes les classes ont l'attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils observent les relations tendues et inquiètes qui existent parmi les nations. Ils voient l'intensité qui s'empare de chaque élément terrestre et ils reconnaissent que quelque chose de grand et de décisif est sur le point de se produire. Que le monde est au bord d'une crise stupéfiante. Les anges retiennent maintenant les vents de discorde, afin qu'il ne souffle pas avant que le monde ait été averti de la ruine qui le menace. Mais une tempête s'amasse, prête à éclater sur la terre. Et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, il y aura une scène de conflit telle qu'aucune plume ne saurait la décrire. La Bible, et la Bible seule, donne une vision juste de ces choses. S'y révèlent les grandes scènes finales de l'histoire de notre monde, des événements qui projettent déjà leur ombre, dont le bruit de l'approche fait trembler la terre. Et fait défaillir les cœurs des hommes de peur. Voici, le Seigneur vide la terre, la dévaste, la renverse et en disperse aux lois les habitants. Ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y habitent sont dans la désolation. L'allégresse des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin. La joie de la harpe cesse. Isaïe 24, 1 à 18.
Hélas, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche, et il vient comme une dévastation de la part du Tout-Puissant. Les semences sont pourries sous leurs mottes, les greniers sont dévastés, les granges sont abattues, car le blé est desséché. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bétail sont consternés, parce qu'ils n'ont pas de pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. La vigne est desséchée, et le figuier languit, le grenadier, le palmier aussi, et le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris, car la joie s'est flétrie parmi les fils des hommes. Joël 1, 15, 2, 8, 12. Je souffre au plus profond de mon cœur. Je ne puis me taire, parce que tu as entendu, ô mon âme, le son de la trompette, alarme de guerre. Destruction sur destruction est criée, car tout le pays est dévasté. Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide, et les cieux n'avaient pas de lumière. Je regardais les montagnes, et voici, elles tremblaient, et toutes les collines s'ébranlaient légèrement. Je regardais, et voici, il n'y avait point d'homme, et tous les oiseaux des cieux avaient fui. Je regardais, et voici, le lieu fertile était en désert, et toutes ces villes étaient renversées. Jérémie 4, 19, 20, 23, 26. Hélas, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable, c'est même le temps de la détresse de Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie 30, 7. Éducation, 107 à Boin, 1,81.